Merci de voir d'accepter de répondre à cette interview donc pour SES-ENS au sujet de votre dernier ouvrage sur la crise des identités donc qui a été réédité récemment. Et on va tout de suite commencer par une première question. Alors vous appuyez sur le double héritage en apparence contradictoire de la pensée philosophique, essentialiste et existentialiste pour définir l'identité. La notion d'identité est-elle véritablement paradoxale?
Oui, la notion d'identité est paradoxale. Comment quelque chose peut-il rester identique, puisque le premier sens d'identité vient de idem en latin, qui veut dire le même, comment quelque chose peut-il rester identique à lui-même alors que on sait de plus en plus que tout naît, se développe, meurt, tout change tout le temps. Et pour aller plus loin, il faut comprendre que identité n'est pas seulement identique, c'est aussi identification. C'est-à-dire que l'identité s'impose pour que on puisse vous identifier, pour que on puisse repérer les différences, les singularités de chaque élément du monde. Bon, il faut pouvoir être identifié et pourtant notre identité n'est pas immédiatement éternelle, ou en tout cas, on n'est pas sûr qu'elle le soit. Bon, il faut donc jouer avec plusieurs registres dans la présentation, présentation de soi, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je veux dire, à la fois pour trouver une définition satisfaisante et que les autres puissent comprendre de soi, par exemple lorsqu'on nous demande de nous présenter, c'est bien dire son identité, mais en même temps faire comprendre ou dire que cette identité n'est pas définitive éternelle, qu'elle a déjà changé, qu'elle peut encore changer et qu'elle est quelque part une histoire, un trajet, un parcours. Penser une identité comme un parcours. Voilà le paradoxe. Alors que identité, ça renvoie à quelque chose de stable, à quelque chose d'immuable. Bon. Et alors cette question qui est classiquement dans l'histoire de la philosophie, la question de l'être, l'être en tant qu'être, qu'est-ce que c'est que l'être, cette question a suscité pendant deux millénaires et demi maintenant, des affrontements, des controverses permanentes entre des tendances de la philosophie. On ramène généralement cette première divergence à celle qui a opposé Parménide, pré-socratique, 600 avant Jésus-Christ, qui a écrit et a publié quelques bribes de ses poèmes, de sa pensée autour de l'idée « l'être est, le non-être n'est pas ». Donc l'être est éternel, l'être est absolu, etc. etc. Et tout ce qui n'est pas l'être n'existe pas. Et Héraclite, qui a écrit sous forme d'aphorisme le poème, etc., dont on a gardé certains, qui défendait toujours l'idée que tout change, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, la vérité d'hier et le mensonge d'aujourd'hui, etc., etc. Que donc c'est le changement perpétuel qui est premier. Et on retrouve ce même débat entre Platon et Aristote, ou alors en plus Démocrite qui va encore plus loin, on retrouve ce débat entre les idéalistes hein, qui mettent l'idée, je veux dire, hein, à la source de l'être, à la source de la vie, à la source de l'esprit, l'idée, et les empiristes, matérialistes, pragmatistes, ils prennent beaucoup de formes existentialistes, qui mettent l'existence, le changement en tête et qui refusent de réduire ce qui existe à des essences et qui ne pensent pas que ces essences existent réellement. Il y a eu la polémique, la querelle des... La querelle, des universaux qui a duré trois siècles entre le 10e et le 13e siècle et qui a été préfiguration de ce qui allait être la cassure à l'intérieur de la théologie entre ceux qui préfiguraient les futurs protestants et qui ne pensaient pas que ces essences, les anges, etc., existaient réellement, et ceux, comme saint Thomas d'Aquin qui avait fixé la loi, qui disait qu'il y a une échelle d'être, hein, depuis les pierres, les animaux, etc., etc., jusque Dieu, et qu'entre l'homme et Dieu, il y a les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, etc. C'était des êtres empiriques, réels, bon, et non pas des inventions, des idées. Donc, vous voyez, c'est quand même une grosse polémique qui a continué, et évidemment, qui, à la Renaissance, a induit une crise de la religion, une crise de l'esprit du temps, et cette crise intellectuelle, cette crise philosophique a coïncidé avec deux autres crises. La crise économique du capitalisme, la naissance du capitalisme, et la crise de l'Ancien Régime, et donc la Révolution française et américaine, la démocratie, qui ont fait complètement basculer la problématique de l'identité. Et on se trouve maintenant avec le problème de savoir qu'est-ce qui peut encore être considéré comme de l'ordre de l'identitaire lorsque tout change et tout rencontre périodiquement des crises, c'est-à-dire des périodes où on passe d'une configuration à une autre, d'une manière de vivre à une autre.
D'accord. Alors, vous présentez dans le premier chapitre de votre ouvrage trois auteurs fondamentaux, Robert Elias, Max Weber et Karl Marx, qui mettent en évidence des grands processus historiques ayant pu affecter les modes d'identification des individus. Quels sont les apports de ces analyses, justement, pour penser l'identité?
Bon, alors, j'aurais pu en prendre d'autres. Il y en a certainement bien d'autres, pensons à Tocqueville, Madame Montesquieu, etc. Bon. J'ai pris ces trois-là parce que ce sont trois auteurs, sociologues, philosophes et sociologues qui ont essayé de penser la notion de processus, penser le changement, penser l'histoire comme une série d'engrenages, une série de passages, de transformations qui ne sont absolument voulus par personne et pilotés par personne, ni par un être transcendant type Dieu, ni par un despote, un monarque qui tirait les ficelles. Non, le processus est quelque chose de complètement immanent à la vie sociale, lorsque on regarde les choses dans la longue durée, on voit qu'il y a un certain ordre dans le changement, qu'il y a un certain principe. Mais encore une fois, un principe qui naît des nécessités du changement lui-même et qui n'est pas un principe transcendant qui vient de la hauteur. Et les trois principes analysés ou défendus par ces trois auteurs m'ont paru intéressants pour rentrer dans la question de la dynamique historique des identités. Elias, parce qu'il a été des trois celui qui s'est le plus intéressé à cette notion d'identité, qui a défini comme le rapport entre identité du jeu et identité du nous. Disons, il y a toujours dialectique de face dans l'identité, identité personnelle, identité collective, et qui parle du processus de civilisation comme un long mouvement historique qui fait passer d'une domination du nous, donc du collectif, donc des normes qui s'imposent par le collectif sur l'individu, à une phase qui commence, qui est tout à fait nouvelle, où c'est au contraire l'individu qui s'oriente, agence, combine des collectifs. Plus un collectif dominant, mais des collectifs multiples. Donc il y a toujours bien individu et collectif. Le processus de civilisation, ce n'est pas celui qui fait passer de la domination du collectif à la domination de l'individu, ça veut rien dire. C'est celui qui fait passer d'une forme sociale où c'est le collectif qui dicte aux individus ce qu'ils doivent faire, à une nouvelle forme sociale où c'est l'individu qui doit s'orienter, qui doit choisir, qui doit combiner des formes sociales multiples. Et il appelle ça civilisation parce que pour lui, le vecteur de cette dynamique, de ce mouvement, c'est la maîtrise de soi et l'État. C'est le lien entre l'individu qui se contrôle de plus en plus et un État qui réglemente de plus en plus le rapport entre les individus. Il a été fasciné par la cour de Louis XIV et il a vu à quel point tous les nobles qui se faisaient la guerre et qui étaient toujours prêts à comploter contre le roi, tout d'un coup, ils sont allés à Versailles et ils ont tous essayé de grimper dans l'étiquette, dans la hiérarchie. Et donc, il a pris cet exemple comme un paradigme d'un basculement de la civilisation, comment dire, primitive, de la civilisation guerrière, de la civilisation collective, à une nouvelle civilisation de l'introdétermination de l'individu qui essaie de se donner un objectif d'ascension dans le pouvoir, et ceci en se contrôlant lui-même, en contrôlant ses émissions, ses émotions, etc. etc. Voir Malferledi, que j'ai lu, comment on fait d'une fleuriste qui parle un accent abominable, une lady qui peut aller dans le Buckingham.
Donc, et Max Weber.
Alors, je vais parler de Marx d'abord. Marx a une théorie un peu proche quand même de celle d'Elias, c'est antérieure. Et pour lui, le processus de fond, c'est le processus de libération, d'émancipation des classes sociales qui sont exploitées par le capital et aliénées par le pouvoir politique, et qui, bien sûr, en s'unissant et en coopérant et en menant la lutte de classe, vont peu à peu déstabiliser le système antérieur, mais surtout vont parvenir à un nouveau stade de la société, de la culture, de la civilisation, où grâce à l'abondance, parce qu'évidemment le capitalisme jette de plus en plus de marchandises, hein, et un jour il n'y aura plus de... ça permettra de nourrir tout le monde lorsque les rapports sociaux auront été mis en adéquation avec cette économie, avec ces forces productives, et que donc on va vers une sorte de mise en commun volontaire, c'est le communisme, de ces de ses biens, de ses passions, de ses intérêts, etc., et non plus, c'est-à-dire enrôlement collectif, soit dans l'exploitation, soit dans la lutte contre l'exploitation, hein, c'est à chacun selon ses besoins, etc. C'est l'idée de l'avènement d'une société sans classe. Bon. Je pense que celui qui a vu les choses de la manière la plus profonde et la plus heuristique pour aujourd'hui, c'est Max Weber. Max Weber, qui a beaucoup, bien sûr, été influencé par Marx, et qui d'ailleurs a influencé Norbert Elias, mais c'est quand même lui qui a compris que le grand passage de l'histoire de l'humanité était le passage d'une dominante communautaire à une dominante sociétaire. Les deux termes ne sont pas faciles à traduire de l'allemand, parce que c'est pas communautaire au sens de la communauté européenne, c'est pas communautaire au sens de l'anglais community, c'est communautaire au sens Gemeinschaft, mais avec cette précision très importante de Max Weber, c'est que le Gemeinschaft n'est pas un État, genre les sociétés primitives de Durkheim, et le Gemeinschaft n'est pas non plus un État de la modernité, des associations, des sociétés anonymes, etc. Ce sont des composantes du social qui s'imbriquent l'un à l'autre et qui dessinent des configurations historiques différentes. Et la crise des identités, c'est le passage d'identités, j'allais dire, héritées, formées, configurées par la communauté au sens weberienne du terme, donc quelque chose d'hérité, reçu, etc., à une association volontaire pour créer du social voulu et mis en commun. C'est ça la grande basculement, et c'est au cœur de cette problématique que j'ai essayé de penser la crise des identités.
D'accord. Alors, vous dégagez des idéotypes de forme identitaire en faisant l'hypothèse qu'il existe un mouvement historique favorisant le passage donc, de formes communautaires, comme vous le disiez, à des formes sociétaires d'identification. Pouvez-vous nous présenter cette grille d'analyse multidimensionnelle et ses apports à la compréhension des crises des identités ?
Donc, en partant de recherches empiriques multiples, donc dans une démarche inductive, j'ai repéré une pluralité de manières de se définir soi-même, définir les autres, justifier ses actions, raconter sa vie, dans les enquêtes qui utilisent les entretiens approfondis, et en particulier les entretiens biographiques, et qui ont, sont multipliés à partir des années 60 dans la sociologie française. Ceux qui ont tenté de les typifier, Saint-Saulieu par exemple, et quelques autres, ont généralement distingué deux axes d'identification qui aboutissent à quatre types d'identité lorsque on dichotomise les positions sur ces axes. Ces axes d'identification ne sont pas les mêmes pour tous, mais on voit bien qu'il y a des axes qui sont ancrés dans le passé, dans la transmission, dans l'héritage, hein, ce que j'appelle l'axe biographique, appelez ça autrement, et qui vont dans le sens de la reproduction des identités d'une génération à l'autre, et il y a un axe qui va dans le sens, non pas de l'héritage, mais de la construction, non pas de la transmission, mais de la relation à l'autre, et qui va donc dans le sens de la production du social et non pas de la reproduction du social. Et en procédant de la même façon par dichotomie, on arrive effectivement à quatre modèles hein, d'identité qui correspondent à des choses qu'on trouve sur le terrain, en particulier dans le champ du travail, puisque c'est à l'occasion d'une étude de terrain sur des grosses entreprises en restructuration rapide, modernisation, formation, etc., que mon équipe et moi, nous avons découvert ces quatre grandes manières de parler de soi, de son passé, de l'avenir, mais aussi bien sûr de l'entreprise, des relations, des chefs, etc. Et donc nous avons essayé d'interpréter cette configuration de forme identitaire dans un espace identique, dans un espace commun. Oui, donc ce qu'on peut dire, c'est que on assiste depuis 20 ans, oui, milieu des années 80, à une tentative du management pour essayer de changer les identités des salariés, essayer de convertir leur identité d'identité corporative, défensive, syndicale, de type taylorienne, à des identités d'entreprise, à des identités participatives, à des identités d'entrepreneurs. Le terme entrepreneur de soi est de plus en plus utilisé par ce management pour définir ce qu'on doit être pour à la fois faire réussir son entreprise et réussir soi-même, le gagnant-gagnant, etc. etc. Ça n'a rien à voir avec l'identité, les convictions, etc., des ouvriers des années 60 qui descendent dans la rue pour demander des salaires, qui obtiennent plus ou moins satisfaction sur les aspects aspect économique et qui, sur le plan idéologique, sont anti-patronal et n'ont absolument rien à voir avec eux. C'est plus du tout cette configuration. Et donc, on voit qu'il y a un autre arrangement des différentes formes identitaires. Des formes anciennes sont dévalorisées, identité corporative, identité dehors travail, etc. Et des formes nouvelles sont valorisées, y compris en excluant ceux qui n'arrivent pas à y correspondre, avec des modes managériales, des changements managériales. En particulier, on peut dire que la forme dominante, la forme valorisée par le management au moment de nos enquêtes de la fin des années 80, a encore changé à la fin des années 90, et que c'est la forme que nous avons appelée de réseau, la forme affinitaire, la forme mobile, qui est devenue aujourd'hui la plus valorisée. Et quand vous allez dire à un employeur, quand vous êtes très bon, ça, mais vous savez, si vous continuez, je vais partir, il vous répond, mais partez donc, monsieur, machin, partez donc, faites votre mobilité, c'est très bien, très bien. Donc, le temps où l'entreprise était considérée comme le cadre, le socle de l'identité, et me semble-t-il largement révolu. C'est le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski, je ne sais plus comment, qui valorise au contraire l'autonomie, la mobilité, la création d'entreprises, globalisation, etc., sur les networks. Donc on voit bien que les configurations des formes identitaires changent, et tout ça se fait dans les crises.
D'accord. Alors, vous mettez en évidence dans votre second chapitre trois processus importants pour qualifier les évolutions des identités sexuelles. Donc là, c'est sur la famille, on reviendra sur le travail tout à l'heure. D'accord. Alors, vous citez l'émancipation féminine, l'individualisme familial, la centralité de la relation amoureuse, et vous observez en définitive que ce qui domine aujourd'hui, c'est la pluralité des modes de vie. C'est-à-dire des combinaisons inédites des formes identitaires. Alors, comment les études sociologiques récentes, notamment empiriques, éclairent-elles ce constat ?
Bon, moi j'ai lu ces évolutions, ces transformations, ces révolutions peut-être même, à travers la littérature des féministes, et en particulier des féministes qui ont fait de la sociologie, qui ont fait des enquêtes, qui ont travaillé empiriquement, et qui ont montré de façon tout à fait convaincante transformation radicale que provoquait l'accès des femmes à la contraception et donc à une forme d'émancipation et de subjectivité, l'accès massif des femmes au marché du travail, et on sait qu'en France maintenant on est presque à parité pour les emplois, et en plus les femmes réussissant mieux à l'université que les hommes ont commencé à envahir tous les professions, tous les champs professionnels d'où elles étaient auparavant exclues, et refus du modèle antérieur de leur mère, femme au foyer, etc., etc., qui amène à une diversification tout à fait étonnante et pas encore vraiment totalement analysée des modes de vie, y compris des modes de vie avec un conjoint et un partenaire, parce que vous savez que pour la première fois cette année ou l'année dernière, une majorité d'enfants sont des hors mariage, donc le mariage au sens bourgeois du terme du 19e siècle n'est plus la forme de vie privilégiée par la nouvelle génération, et il y a toutes sortes de choses, conjoints non cohabitants, famille monoparentale avec plusieurs pères et tous les enfants élevés par la mère. Il y a des phases de solitude dans le cycle de vie, enfin on revient, etc. Bon, vraiment tout l'éclatement de la norme du mariage, de la famille, qui fait dire, à mon avis tout à fait à juste titre, à l'un de nos meilleurs démographes et connaisseurs de la famille, Louis Roussel, que la famille est devenue incertaine. Bon. Alors, ça engendre évidemment des crises identitaires très graves, parce que on voit bien avec le mariage homosexuel, avec l'adoption par les homosexuels des enfants, etc. On voit bien qu'il y a un brouillage de la définition du sexe. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être un père? Qu'est-ce que c'est qu'être une mère? Qui rend surtout les hommes très anxieux et très comment dire dans l'incertitude identitaire, y compris avec des manifestations de violence, bon, violence conjugale ou pas, mais aussi des violences sur le terrain. Je suis persuadé que les violences dans les cités sont liées à ce rapport entre les garçons et les filles. La preuve, c'est qu'on ne parle que des garçons, que des gamins, et que quand les filles sont interrogées, quand on leur demande, elles disent, mais mes frères, c'est pas possible, bon, on peut absolument pas les discuter avec eux, il y a un fossé complet entre nous. Et on voit bien que les filles ont une chance grâce à l'école d'en sortir, alors que les garçons dans l'échec scolaire, etc., sont complètement désespérés et sont prêts à tout casser. Bon. Et donc on voit bien que dans ce passage, cette mutation qui provoque ces crises identitaires, la question des rapports entre les hommes et les femmes, la division sexuelle du travail, rapports sociaux de sexe, sont absolument, absolument fondamentaux. Le XXe siècle aura été le siècle du bouleversement des rapports entre les sexes, et l'ancien modèle datait de très, 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 très longtemps. Bon. Donc, c'est un exemple. Et c'est une dimension particulièrement importante parce que les identités sexuées sont les plus comment dire les plus menacées par la naturalisation, par l'imposition d'une sorte d'ordre éternel et autres. Et c'est en même temps le premier la marche à partir de laquelle on peut se construire quelque chose par soi-même, je veux dire, est différent de toutes ces normes héritées, de tous ces stéréotypes, etc., etc. Et je pense qu'en France en particulier, mais aux États-Unis aussi, en Hollande, en Suède, en Angleterre et autres, autour de mai 68, il s'est produit quelque chose de très très important, mais qui n'a pas débouché sur une transformation complète, une autre forme de vie, qui a débouché sur une sorte de crise dans laquelle nous sommes, et où on voit bien toutes les incertitudes des relations entre les hommes et les femmes. Bon, quand on en est au Canada, aux États-Unis, à devoir faire signer quelqu'un pour dire qu'il est d'accord pour ne pas ensuite être attaqué en justice, etc., on s'est dit qu'on est quand même dans des rapports très très compliqués, très 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 délicats, très difficiles entre les hommes et les femmes. Donc voilà, premier exemple, première dimension de crise des identités, la crise des identités sexuées, c'est-à-dire la remise en cause radicale de la domination masculine, qui évidemment provoque un retour, un raidissement de certains hommes, de certaines communautés, de certaines idéologies, et c'est pas rien que l'islamisme soit quand même complètement bloqué sur cette question d'émancipation de la femme, et du voile, et de la droit de vote, permission de conduire des voitures, enfin, ben, bref, bon, c'est un point saillant qui montre bien que cette fois-ci, cette modernité-ci ne pourra pas se faire qu'avec les hommes.
À la différence de la première crise de modernité que
Voilà,
vous évoquiez.
à la différence de la première crise de modernité, où quand on suit le rôle des femmes dans la Révolution française, qui est tout à fait admirable, tout à fait passionnant, on voit quand même un échec total. Et le fait que les hommes ne se rendent pas compte que les femmes sont des êtres humains comme eux, et que quand ils disent droit de l'homme, c'est droit du mâle qu'en fait ils proclament, et que le moment de la femme n'est pas encore venue, que l'identité féminine est encore une identité aliénée, une identité au rabais, une identité négative, on peut même dire. Et pourtant, il y a la démocratie, et pourtant, il y a le travail salarié, etc. Mais les femmes en sont tenues à l'écart. C'est plus possible. Même dans les pays les plus islamistes, les plus intégristes, les plus reculés, on voit en Afrique le rôle des femmes extraordinaire en Afrique. Bon, et ça, c'est une révolution. Mais encore une fois, comme on ne débouche pas sur une autre civilisation, ce mouvement crée des crises de toutes sortes, crises personnelles, mais aussi des crises sociales, mais aussi des crises symboliques de toutes sortes.
Alors ça, c'est vrai que c'est une des premières grandes dimensions que vous explorez. La deuxième, vous l'avez évoqué, c'est le rapport au travail,
Oui,
finalement,
qui a tout, complètement changé. Le rapport au travail est complètement changé. Bon, on peut dire que le modèle dominant des Trente Glorieuses, qui est quand même le modèle du contrat durée indéterminée, du travail à vie, de la progression à l'ancienneté, de la protection sociale, du syndicalisme défendant les salaires avec un compromis institutionnalisé avec le patronat et l'État, etc. Et donc une sorte de sécurité montante, une sécurité améliorée. Bon, ça a complètement volé en éclats avec le triplement du prix du pétrole en 73, avec surtout la baisse de la rentabilité du capital, qui a fait que les entreprises, après les producteurs de pétrole, se sont mis à changer de politique économique radicalement et à chercher par tous les moyens à développer la flexibilité. Flexibilité qui veut dire précarité des emplois, chômage de masse, mobilité aux contraintes, etc. Et donc, tu as tout d'un coup le travailleur qui pensait, parce qu'il avait eu son examen, son CAP ou son diplôme d'ingénieur, qui avait été embauché quelque part, il était tranquille pour le reste de ses jours, va se trouver contraint de changer d'emploi, changer de profession, changer de manière de travailler, changer de conception du monde même, puisqu'il y a une bataille identitaire, je crois que le terme est juste dans les entreprises, pour prendre la tête des salariés, pour en faire des petits entrepreneurs qui vont faire gagner leur entreprise, etc. etc. Et donc cette crise des identités professionnelles a été évidemment complètement concomitante de la désintégration de la société industrielle, des crises de la sidérurgie, des mines, des chantiers navals, etc. Il y a eu une désindustrialisation brutale et massive et la nécessité d'entrer dans un nouveau système économique ou dans un système économique transformé qu'on appelle société des services, société de l'intelligence, société de la connaissance, enfin, tout fleuri, mais où en tout cas dans les pays anciennement les plus industrialisés, qui sont toujours les pays économiquement dominants, ce n'est plus le travail manuel à la chaîne production directe de plus-value qui est l'acte fondamental du travail, mais c'est ce qu'on appelle la résolution de problèmes, c'est-à-dire une opération cognitive consistant à imaginer comment faire gagner de l'argent à l'entreprise, comment trouver de nouveaux clients, comment innover des nouveaux produits, comment avoir des liens mondialisés, exportés, etc. Bon, on n'est plus du tout dans la même définition du travail, donc dans la même conception de ce qu'on doit faire au travail, de l'identité au travail, et on voit bien que c'est complètement différenciateur du salariat. Saint-Sulieu disait avant, jusqu'aux années 60, dans le salariat, ben c'est ça, ou bien on était du côté du manche, on était ingénieur du côté de la direction, on platifiait tout, ou bien on était salarié, que ce soit. Il n'y avait rien entre les deux, il n'y avait pas d'alternative. Bon, là, on voit un éclatement. Une différenciation beaucoup plus forte des manières d'être au travail, des conceptions du travail, des relations de travail, et on voit aussi que la subjectivité compte de plus en plus dans l'appréciation que les managers font du travail. Par exemple, moi j'ai toujours interprété le passage de la logique de la qualification fondée sur le diplôme reconnu collectivement à la compétence individuelle appréciée par l'entreprise à partir du travail effectué comme un basculement complet. C'est pas le même travailleur qui défend sa qualification et celui qui essaie de se vendre et qui essaye d'argumenter sa compétence. On est passé de l'un à l'autre, de la première à la deuxième modernité, de cette gestion, comment dire, de cette gestion collective, institutionnalisée entre patronat, syndicat, autour de la croissance, évidemment, et du partage des fruits de la croissance, des politiques des salaires, à une politique ultra-compétitive et d'appréciation directe de la hiérarchie, des capacités, des compétences des salariés, donc avec la peur de se faire virer tout le temps, et la pression énorme psychologique sur en faire plus, toujours plus, toujours plus, d'où l'augmentation des maladies psychiques, la consommation de psychotropes, etc. Voilà. Bon, ça, on est bien dans une crise existentielle qui est secrétée par un changement de modèle économique, par un changement de gestion du travail et de rapport entre l'individu et l'entreprise, entre le travailleur et le marché. Le marché. Bon. Ehrenberg le dit très bien, la fatigue d'être soi, le culte de la performance, voilà. Tout le monde doit être performant, tout le monde doit se dépasser, être soi, être mobilisé, motivé, etc. etc.
Alors est-ce que justement ces mutations récentes du travail viennent modifier la typologie des identités élaborées par Rousseau sur ce lieu et celles que vous proposiez aussi dans la socialisation?
Oui, oui et non. Je pense que à partir du moment où on cesse de considérer les types comme des réalités directes et on les prend comme Maslow comme des types idéaux. Ce qui change, c'est l'agencement, la configuration des différents types idéaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai précisé, que j'ai changé entre la socialisation, où il y avait des mauvaises interprétations de cette affaire, et la crise des identités. J'ai défendu la thèse que, finalement, ces formes identitaires, tout le monde devait les agencer. Il y avait une forme dominante, bien sûr, mais il y avait beaucoup d'agencement possible entre cette forme dominante et les autres. Par exemple, dans ma typologie la plus abstraite, identité nominale, tout le monde a un nom. Bon, mais tout le monde ne se présente pas avec son nom. Et en disant, je suis le fils de machin, le petit-fils de machin, je suis juif de machin, ou je suis... Bon. Mais il y en a qui le font. Mais c'est une des possibilités. L'identité statutaire, bon, tout le monde ne se présente pas en disant, je suis prof de fac, machin, tout ça, etc. Bon, on commence par dire, on en a marre de tout ton truc. Bon. Les deux autres manières de s'identifier sont plus difficiles, sont plus délicates. Identité réflexive au sens de ses convictions, je suis de droite, je suis de gauche, je suis chrétien, je suis militant, je suis protestant, etc. etc. Bon, c'est possible, c'est toujours possible, mais c'est pas... Bon. Et enfin, cette façon de plus en plus valorisée, que j'appelle identité narrative, donc le fait de raconter sa vie, d'ailleurs quand on dit, mais qui t'es-toi, qu'est-ce que tu es, tout ça, la seule façon de dire, bon, bah, c'est bon, sinon, il faut trouver l'énigme, évidemment, de sa vie. On voit que ces quatre manières de réagir à la question, qui êtes-vous, sont toujours possibles, mais sont configurées différemment selon les parcours de vie, selon les positions, bien sûr, de chacun dans la société, mais surtout les trajectoires qu'il suit pendant sa vie. Et donc, ce qui change fondamentalement, c'est la multiplication des configurations identitaires et les tentatives d'imposer, et les résistances à cette imposition, d'imposer une forme dominante à l'intérieur de quatre formes typiques.
D'accord. Alors, la dernière dimension que vous évoquez, c'est la crise des identités symboliques. Hein, ouais. Vous y consacrez un chapitre, hein, donc qui recouvre en fait le rapport des individus à la religion et à la politique.
Et à la politique.
Alors, quelles sont les principales formes d'identification qui ont perdu leur légitimité et quelle recomposition finalement observe-t-on?
Bon, alors on est ici en plein dans la question, entre guillemets, du communautarisme, dont il faut être très prudent pour en cerner exactement le phénomène, la définition. Mais disons que les comportements qui relèvent d'une imposition, d'une inculcation, d'une adhésion totale d'un individu à un système religieux ou politique, hein, sont dévalorisés par rapport à l'individu réflexif, mobile, l'individu se posant des questions, y compris pragmatiques, changeant d'opinion en fonction du problème, etc., n'étant pas prisonnier par une idéologie ou une religion. Donc, les formes autoritaires, les formes collectives, les formes imposées de systèmes symboliques sont dévalorisés. Mais pourtant, je dirais, les conditions pour permettre au plus grand nombre de se forger une position, de se forger une identité, de se forger un sens à travers le magma des aléas de l'actualité politique religieuse ne sont pas remplies. Une des raisons, on verra, c'est la crise scolaire, c'est que l'école ne donne pas à la grande masse des jeunes les outils pour le faire. Et donc on se trouve, là encore, dans une crise, dans une situation où les anciens repères ont été dévalorisés. Prenez le communisme, prenez même le catholicisme. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui se disent, dans la société française, quand on les interroge, je suis communiste. Ben, je suis catholique, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et donc, ça ne sont plus des affirmations, des définitions prestigieuses, des définitions courantes. C'est devenu, d'ailleurs, plus loin, de moins en moins qui disent je suis ouvrier. Hein, parce que maintenant, dans le modèle de la compétence, tout le monde est opérateur, n'est-ce pas? Tout le monde est agent technique, etc. Donc, il y a un certain nombre de mots. D'identité, de mots collectifs, d'identité collective, qui sont dévalorisés. Et les autres mots qui sont valorisés, attendus, c'est-à-dire la capacité pour argumenter une position sur un problème donné, pour comment dire, relier. Justifier des actions qu'on a faites à un moment donné avec un itinéraire antérieur ou avec un projet futur, etc., sont très très difficiles, à tel point qu'on voit très bien dans les journaux, les informations et autres, que c'est les petites histoires personnelles de nos dirigeants qui intéressent malheureusement pas seulement les journalistes mais aussi leurs lecteurs et non pas, j'allais dire, les grandes idées ou les grandes orientations religieuses, politiques. Bon. Et donc là, il y a une très grave crise, qui est une crise de la démocratie, quelque part, hein, puisque la démocratie indirecte a été largement, non pas dévalorisée, mais relativisée, comme étant, comme on dit, la moins mauvaise forme de gouvernement, mais qui ne satisfait vraiment personne. La démocratie participative, on en parle, mais on ne sait pas ce que c'est, et ça n'a pas fait ses preuves. Et donc, il y a une grande hésitation, une grande crise. On le voit chez les jeunes des banlieues qui développent des conceptions complètement paranoïaques du pouvoir d'État, la mainmise de la franc-maçonnerie d'Israël, des États-Unis, etc. Des vues complètement paranoïaques, quoi, de leur situation, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de. D'écrire, d'argumenter, définir leur situation que celle qui vient du groupe fusionnel, je dirais, de quelques leaders d'opinion, souvent l'imam qui ne sait quel pays arabe, et puis quelques intellectuels wahhabites, etc. Bon, salafis, etc. Bon. Donc, grand, grand déficit de ce qu'on appelait dans la première modernité le sens civique. C'est tous ces débats constants sur introduire l'éducation civique à l'école, le moral à l'école. Bon. Parce que bien sûr, il n'y a plus du tout Le contexte de la première modernité, par exemple française, allons reconquérir l'Alsace et la Lorraine, donner sa vie pour la patrie, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Il n'y a plus de méta-garant système qui permette à une classe, un enfant, ou à une génération, ou à un pays, etc., sauf alors des régressions. Comme on les voit dans les terrorismes de toutes sortes, les nationalismes, des nationalismes violents, mais qui sont des choses bien connues, puisque le 19e siècle a été l'ère des nationalités, que le 20e siècle a été l'ère des guerres mondiales, des affrontements, etc. Et que, on ne va pas revenir en arrière. Mais qu'est-ce qui nous attend comme nouvelle forme de symbolique de valeur, on dirait pour Marie-Vique, de valeur symbolique. L'impression qu'on a, c'est que l'économique envahit tout, que l'économique prend toute la place du symbolique et que les intérêts ont totalement écrasé les valeurs. Bon. On sait que ce n'est pas vrai, parce que la société ne peut pas fonctionner sans symbolique et sans valeur. Mais on a du mal à comprendre, parce que c'est en crise, quelles sont ces valeurs symboliques de demain qui vont avec la deuxième modernité.
Justement, le fait qu'il puisse y avoir des engagements citoyens ponctuels,
voilà.
Éphémères,
voilà.
C'est peut-être une source aussi de compréhension.
Oui, alors c'est très vrai, c'est très important. Il continue à y avoir des engagements, il continue à y avoir du bénévolat, il continue à y avoir du militantisme, il continue à y avoir des associations qui se battent. Mais ces associations, ces ONG par exemple, ne sont plus ce qu'étaient avant les partis ou les syndicats de lutte des classes ou les grandes organisations révolutionnaires. Ce sont des partis qui privilégient l'éthique sur la politique, qui privilégient le court terme, l'urgence. On reçoit tous dans nos boîtes aux lettres, urgent, faut donner tout de suite 100 euros, etc. Bon, d'accord, mais on peut faire ça tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la continuité, etc. Et donc, les formes d'engagement collectif actuelles, qu'on étudie dans mon laboratoire depuis quelque peu, sont à la fois la marque qu'on ne peut pas évacuer le symbolique, qu'il y a toujours du symbolique qui réapparaît, mais que la forme prise par ce symbolique change profondément et pour l'instant pris dans les contraintes de la forme gestionnaire, parce qu'il faut des sous pour tout ça, etc. La gestion s'est mise à s'occuper fortement des associations et des engagements, et des incertitudes identitaires qui font que ces engagements sont plus à durée limitée, sont plus distanciés qu'avant, et la valeur de l'authenticité prime dans ces engagements sur la valeur de la fidélité.
Alors, autre dimension de ce chapitre, hein, vous parlez de l'école. Alors, vous soulignez que l'accès massif des élèves dans les filières générales a accentué la crise de la forme scolaire, qui constitue donc une des illustrations de la crise des identités. Quelles sont les caractéristiques et les solutions à cette crise, et quels sont les apports de la réflexion sur la notion de sujet apprenant ?
Alors, la crise de la forme scolaire, différente selon les pays, hein, les politiques, les contextes, il faut faire attention à ne pas trop vite la globaliser. Moi, je parlais de la française, que je connais un peu, mais je trouve que c'est une très belle illustration de la crise des identités et du passage de la première à la seconde modernité. La première modernité avait inventé l'école, la scolarité obligatoire, formidable, Jules Ferry, enseignement de masse, aussi sélection sociale, les deux écoles, on connaît bien les analyses des historiens, la filière du lycée bourgeois menant à l'université pour la minorité, et la filière menant à la vie active, le syndicat d'études primaires pour les paysans, les partie de paysans et les ouvriers, chacun sa place, ça a très bien marché. Et il y avait de plus en plus une section moyenne, le collège moderne, etc., qui a permis à des gens qui étaient boursiers, hein, qui n'étaient ni héritiers ni populaires, de grandir et au système scolaire d'ailleurs de se différencier en mettant cette troisième voie, la voie moderne, la voie du collège, comme de plus en plus centrale, hein, dans les politiques de développement. Avec le collège Abi d'abord, et surtout avec les 80% du passage au baccalauréat de Chevènement, on assiste à une entrée massive, mais massive par rapport aux autres pays d'Europe, c'est tout à fait extraordinaire. On passe de 22,5% d'enfants d'ouvriers à l'université en 80 à 66% 20 ans plus tard. 22-66, c'est une explosion. Bon. Mais attention, disons tout de suite que sur ces 66, la moitié n'obtiennent pas le diplôme de premier cycle au bout de 4 ans, ou quelquefois au bout de 2 mois, ou quelquefois n'obtiennent pas de diplôme de premier cycle. Mais il y a un accès massif des enfants des classes populaires au lycée, à l'université de Metz, et on assiste à une nouvelle forme très subtile, je dirais, de sélection, une nouvelle cassure identitaire, je peux dire, entre ceux qui possèdent les clés pour devenir, comme on disait à l'UNEF du temps où je la dirigeais, des jeunes travailleurs intellectuels, donc pour devenir des... pour développer des compétences en matière de travail intellectuel, puisque tout le monde s'étant précipité dans les voies générales, c'est ça qui devient l'objectif. Et ceux qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas les ressources et les capacités, ni de leur famille, ni des enseignants qui n'ont pas le temps de s'en occuper, ni de leur contexte géographique local, où les intellectuels sont tout à fait minoritaires. Et donc, ils se retrouvent dans une situation de frustrés, dans une situation de piégés, puisqu'ils ont cru que l'augmentation de leur scolarité allait leur donner ces compétences qui leur permettraient d'entrer sur le marché du travail et d'avoir une carrière, et ils se retrouvent dans des emplois complètement dévalorisés, comme des emplois que vous connaissez bien, de téléphonie, de téléphonique, d'animateur dans les machins, etc., etc., d'où évidemment colère, une rage, une bonne réaction. Et donc, on est là en face d'un modèle typique où une sorte de volontarisme de passage en force, je dirais, hein, d'une conception à une autre de l'apprentissage, de la subjectivation, du fait de devenir un sujet, de construire ses savoirs soi-même, et donc de construire son projet, de construire ses identités avec une forte coloration individualiste, avec une forte concentration de personnel, que donc cette politique ou cette injonction à changer de rapport au savoir et de rapport à l'école s'est heurtée à des résistants, des réticents, des manques de conditions culturelles chez les élèves, des manques d'organisation et de motivation des enseignants, et des manques de régulation d'ensemble, puisqu'on voit bien que ça n'accorde absolument pas les flux de sortie de l'école aux flux d'entrée sur le marché du travail, puisqu'on a une catégorie de jeunes étant allés à l'université sans diplôme, qui se placent plus mal que des jeunes qui ont un CAP aujourd'hui dans la société française. Donc c'est un gâchis extraordinaire. Bon, c'est un échec patent qui se cristallise sur violence à l'école, sur relations entre les enseignants et les garçons de classe populaire qui échouent systématiquement, qui en rendent responsables leurs enseignants, etc. Encore une fois, seules les filles qui sont l'avant-garde de la deuxième modernité arrivent à peu près à s'en sortir, cela dit, avec des tensions extrêmement fortes par rapport à leurs frères. et des très grandes difficultés pour avoir des relations, j'allais dire, amoureuses, fraternelles, avec des frères et des jeunes de garçons qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne reconnaissent pas, et qui sont, eux, restés complètement dans une culture communautariste, dans une culture fusionnelle, etc. Donc, derrière tout ça, il y a la délinquance, bien sûr. Derrière tout ça, il y a les quartiers, les cités sensibles, etc. On a fait une politique, comment dire, de politique de marche forcée. Enfin, je pense à la Chine, juste avant les années 50, le grand bond. On a fait une politique de grand bond. Dans l'école, on sait que le grand bond en Chine s'est conclu par des famines et une crise monumentale. Et bien là, le grand bond dans l'école est en train de se conclure de la même façon.
Bon, alors peut-être que ça, c'est le dernier concept que vous développez, en fait, vous proposez en fait une approche sociologique des crises identitaires,
oui,
et précisez donc un concept fondamental d'identité personnelle qui va peut-être nous permettre de comprendre ces parcours de jeunes.
Oui.
Comment cette identité personnelle se construit-elle et quelles sont ses différentes dimensions?
Oui, alors c'est tout le problème, c'est la norme, hein, d'abord. Il faut bien comprendre que construire son identité personnelle est devenu une norme, un impératif des dirigeants de ce monde du management. Dans les entreprises, des responsables politiques, des psychologues, des consultants et autres experts. C'est une norme, il faut être soi, c'est-à-dire construire sa différence, son projet de vie, et donc son identité qui devra être reconnue socialement. La reconnaissance est l'autre face de cette construction. Il faut construire un projet, une identité qui soit reconnue par les autres, les employeurs, les partenaires de conjugaux, les politiques, religieux, etc. etc. Et la question qui n'est généralement pas vue et pas posée, c'est à partir de quoi construire cette identité. Les êtres humains, les individus, n'arrivent pas vierges dans la société. Ils ont, en naissant, un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'attributs, un certain nombre d'images, de mots, etc., qui leur sont attribués par les autres. La première construction identitaire est en fait une attribution, un étiquetage qui prend pour beaucoup, beaucoup de gens de la population la forme d'une stigmatisation. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas, c'est l'exemple le plus intéressant, c'est les États-Unis, les WASP, donc qui ne sont pas blancs, protestants, d'études supérieures, descendants des familles des immigrants, tout cela n'ont pas une identité positive. Donc les Noirs, les Hispanos, les paysans, etc. Donc l'identité ne peut pas être séparée d'un processus d'attribution par les acteurs sociaux, par les gens, qui fait que l'identité attribuée par autrui précède l'identité éventuellement construite par soi. Bon. Et c'est ça la première crise identitaire, c'est de pouvoir mettre en question l'identité qui nous est attribuée, quelle qu'elle soit, pour parvenir à construire quelque chose qui soit l'expression de soi-même. Ça, c'est l'identité personnelle. Et cette identité personnelle doit combiner, doit articuler plusieurs dimensions à la fois, parce qu'elle doit être à la fois identité professionnelle, projet de travail, autonomie, indépendance, elle doit être une identité relationnelle, une identité de type conjugal, amoureuse, etc., parce qu'il faut réussir son rapport à l'autre, et une identité symbolique publique, un espace public, une place, un accès, une place dans l'espace public, ce qui suppose que l'on soit capable d'argumenter des positions sur les questions économiques, sociales, politiques, religieuses, etc. Donc de parler, d'avoir un langage comme celui de nos dirigeants, ce que Sarkozy n'a pas tout à fait, et ce qui donc ouvre un certain, marge de manœuvre par rapport à ce langage qui est souvent la langue de bois, faut quand même le dire. Mais parler langue de bois ne s'apprend pas en 2 minutes. C'est un long apprentissage. Et si on ne parle pas langue de bois, on a du mal à intervenir dans ces forums, dans ces lieux, ou même en religion, parce que la langue de bois, c'est encore pire. Dans les religions, ça consiste à répéter le Coran, ou à répéter la Torah, ou l'Évangile. Bon. Donc, les ressources symboliques, langagières en particulier, sont devenues absolument vitales pour effectuer ce travail de contestation, de remise en question des identités attribuées, qui, sauf ceux qui, comme on dit, sont nés avec une petite cuillère dorée dans la bouche, bon, enfin, ça représente quoi, 3 ou 4% de la population, pour tous les autres, la manière dont ils sont considérés a peu de chances de correspondre à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, il y a un véritable travail de rupture, un véritable travail de conversion, pour, à partir des désirs des autres, hein, Freud disait le surmoi c'est le désir du père pour son fils ou pour ses enfants, etc., des parents. Bon, donc à partir de cette projection par les autres de choses multiples sur vous, l'individu de la deuxième modernité a un travail à faire pour se déprendre, ou pour en prendre et en laisser, on va dire, hein, bon, comme exactement dans le modèle de l'immigration, je prends comme étant vraiment typique le passage à la première et deuxième modernité, on ne le suit jamais mieux que quand on prend une famille d'immigrants sur 3 générations, et on voit bien quelle est la suite des opérations depuis les tensions très fortes entre les parents qui veulent revenir au pays, les enfants qui sont obligés de continuer à pratiquer la religion. Bon, la deuxième génération, c'est la bagarre entre les parents et les enfants, entre les filles et les garçons, etc. Et puis, généralement, à la troisième génération, il y a intégration, il y a changement d'identité, il y a passage à identité personnelle par rapport à une identité fortement collective. Pourquoi elle est collective? Parce que c'est le stigmate, parce qu'on vous définit comme jeune des cités, maghrébin, noir, handicapé, avec un grand nez, tout. Enfin, bref, on trouve toujours, les gens sont méchants, c'est pas bien de dire, que l'acte premier dans le processus identitaire, c'est l'étiquetage d'un individu par les autres. Hein, les petits copains, qui rigolent, etc. Donc, ce travail d'identité personnelle ne part pas de rien. Il part d'une forme d'identité, qui est d'ailleurs les identités de l'Ancien Régime, du passé, pour le transformer, les transformer, il y en a toujours plusieurs, les transformer en projet personnel, en subjectivité, épreuve, voilà, en épreuve de reconnaissance. Parce que l'autre, qui est au début du processus, il est aussi à la fin. Cette identité construite, bricolée, moi j'aime beaucoup le terme bricolée, cette identité bricolée avec des éléments divers qui viennent d'ici, qui viennent de là, mais qu'on dit ça c'est moi, si j'ai bricolé moi. Si on ne trouve pas quelqu'un pour la valider, si on ne trouve que des gens pour dire avec ça, ma fille s'y a revu pas, t'es nul, ou t'as bon, ou avec des notes bon, aux épreuves, ou avec des refus, etc., évidemment ça c'est cool, il faut recommencer.
Vous parlez de la dimension de l'identité narrative, justement, oui, pour comment le langage peut donner une cohérence à la trajectoire.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez revenir sur ça un petit peu.
Oui, oui, le cœur de ce travail de transformation d'une identité attribuée en une identité personnelle, revendiquée personnelle, c'est l'acquisition et peut-être même la dominance de l'identité narrative, c'est-à-dire de la capacité de constamment relire, réinterpréter son passé pour lui donner un sens qui justifie un projet d'avenir et qui permet d'argumenter les choix faits dans le présent, les choix quotidiens, etc. Donc l'identité narrative, c'est la justification au nom de valeurs, et pas simplement j'étais obligé, je n'ai pas pu le faire autrement, hein, c'est là pouvoir réintroduire quelque chose qui n'est pas de l'économique, donc la réintroduction au nom de valeurs, quelquefois ça peut être des valeurs économiques, bon, mais en tout cas il faut l'expliquer, il faut le dire, la justification d'une histoire passée et de son lien avec une anticipation de l'avenir, le tour autour de ce que Ricoeur, qui a été le grand inventeur de l'identité narrative, appelle une intrigue. Voilà. Trouver une intrigue. Hein. Donc l'identité, c'est plus un nom. Hein, je m'appelle machin, bon oui, après, ah ben ça c'est un nom plus juif, ça c'est un nom arabe, ça c'est un nom. Voilà, et on y va, et hein, bon, c'est plus seulement une identité native. C'est plus seulement une identité statutaire. Je suis prof de français en me faisant, bon d'accord, et alors, bon, qu'est-ce que tu veux faire ben, une prof de français de bon, mais comment, pourquoi tu as voulu faire ça, etc. Bon, donc c'est plus seulement une identité statutaire, c'est plus seulement une identité réflexive où on dit, bon, voilà ce que je crois, moi je crois que, bon, c'est bien vous, mais qu'est-ce que tu en fais de tes croyances? C'est une identité qui s'incarne, qui se transforme en intrigue d'une histoire personnelle, revendiquée comme la sienne. Pas toujours reconnue par tout le monde, mais sans doute au moins reconnue par l'autre, on l'appellera l'autre. Hein, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être le petit ami, ça peut être la mère, ça peut être... Bon. Mais il y a un autre, un tu, hein, qui reconnaît le jeu. Comme dit Benveniste, c'est bien de dire oui, l'identité, l'énonciation, c'est dire je, mais le je s'adresse toujours à un tu. Donc le je de l'identité narrative est nécessairement pour un tu qui est appelé à le reconnaître. Et entre ce « je » et ce « tu », il y a ce que Ricoeur appelle la vie bonne dans des institutions justes, c'est-à-dire le fait de pouvoir justifier la vie que l'on a, ou la vie qu'on veut avoir, par des valeurs, et par des valeurs, locales, et par des institutions, donc un cadre social qui soit légitime. Légitime, ça c'est de la légitimité. Voilà. Donc voilà, je suis content qu'il y ait un philosophe que j'aime beaucoup qui m'ait fourni les maillons qui me manquaient sur l'identité personnelle, parce que comme en plus, j'avais écrit avant avec Didier Demazière, analyser les entretiens biographiques, je sais comment on atteint ou on essaye d'atteindre ces formes identitaires et ces combinaisons dans les identités personnelles, c'est par le récit de vie, l'entretien biographique, etc. Mais comment faire le lien entre cette méthode de l'entretien biographique et cette notion d'identité narrative comme, forme la plus légitime, la plus moderne, enfin je ne sais pas la plus quoi, enfin en tout cas la plus à la mode d'aujourd'hui, je l'ai compris grâce à cette définition de la vie bonne dans des institutions justes, qui est en fait une des traductions possibles de l'intrigue de ce qu'on a fait, essayer de vivre heureux, mais essayer que les institutions dans lesquelles on vit soient justes. Hein, d'où le militantisme, l'engagement, etc., etc. Voilà, je crois qu'on est à peu près...
Juste une dernière petite question concernant le sujet de recherche actuel. Vous pouvez nous dire un petit peu...
Les sujets de recherche actuels. Ben, j'en ai plusieurs, mais qui sont un peu au point mort, enfin, qui ne sont pas vraiment... encore traduit en livre à écrire. J'en ai un qui consiste à essayer de comprendre comment les gens écrivent leurs autobiographies. Mais évidemment, il faut choisir un panel, il faut choisir quelle personne. Bon. J'ai, dans la ligne de ce qu'avait fait Claude Lejeune, qui s'appelle le pacte autobiographique, où il s'était intéressé, lui, à de très grandes autobiographies, puisqu'il avait pris Jean-Jacques Rousseau, Sartre, Léris, et puis je ne sais plus le quatrième. Bon, moi, je voudrais prendre des auteurs littéraires, j'allais dire ordinaires, quoi, bon, et essayer de faire une sorte de typologie, de la manière dont ils s'y prennent hein, pour se présenter, argumenter, justifier, etc. Bon. Faire sur un corpus d'ouvrage, j'allais dire, le travail qu'on avait fait sur un corpus d'entretien. Hein. Bon. Je me rends compte que c'est fort difficile, que c'est très compliqué. J'ai commencé, mais je ne sais pas trop où ça va mener. Bon. Je vais continuer, je vais voir, je vais accumuler des lectures, je vais accumuler des notes, mais j'ai pas suffisamment de compétences littéraires et d'histoire littéraire pour arriver à faire quelque chose d'intéressant dans cette voie-là. Donc c'est un peu de l'amateurisme. Bon.
Oui.
L'autre chantier que je voudrais faire avec Sandrine Nicourt et dans le cadre de l'atelier qui s'appelle Collectif d'engagement, c'est essayer de collecter des biographies de militants et responsables de mouvements d'action catholique qui ont commencé à peu près en même temps que moi dans les années 30 et qui doivent être maintenant soit morts, mais non quand même pas, retraités, c'est-à-dire tout à fait prêts à raconter les aventures de leur engagement et comment cet engagement d'action catholique initiale s'est ou non transformé en engagement politique ou d'autres choses. Bon. On a commencé à voir ça. Elle s'est intéressée à la CFDT, elle a commencé à s'expliquer. Je crois qu'elle va finir sans moi, et c'est bien. Moi, je suis à la recherche d'une base de données sur des militants de la JOC, de la MRJC, de la GEC, etc., qui auraient une soixantaine d'années maintenant et qui auraient commencé leur carrière de militant dans les années 60. Là, pour faire des entretiens biographiques, évidemment, et pour voir. Pour tester hein, l'idée de la transformation profonde de l'engagement, du sens de l'engagement. Alors c'est difficile parce que beaucoup ont disparu de la circulation, ils ont été militants pendant 10-15 ans, puis après, bon, donc il faut commencer à les rechercher avec le net, avec Google et compagnie. Bon, mais j'espère avoir un petit échantillon et pouvoir. Bon, donner une idée à peu près de ces parcours. Hein. Et c'est en même temps pour essayer de lier parcours professionnel et parcours de vie. Parce que ce sont des gens qui ne séparaient pas le milieu professionnel et pour qui ce n'est pas la carrière, au sens carrière professionnelle, qui compte.
Et sur le justement le parcours professionnel, sur cette dimension-là où on...
Alors, sur parcours professionnel, il y a des collectifs hein, qui travaillent, il y en a un dans le laboratoire, par exemple, qui travaille sur l'enquête Histoire de vie de l'INSEE. Donc, c'est une grosse enquête de 13 000 questionnaires où on demande aux gens ce qu'ils ont fait dans leur vie, dans tous les domaines, migration géographique, conjugale, état civil, professionnel, politique, syndicale, etc. Bon. Donc, il y a une équipe qui travaille, je prends régulièrement. Prendre connaissance des travaux qui sont faits, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans. Il y a aussi des avancées du côté plus théorique, et on va essayer de faire un séminaire, un groupe de travail sur parcours, le paradigme du parcours de vie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de transformer des données transversales sur l'âge, parce que ça part souvent de là, là, en théorie de la manière dont les différentes populations aujourd'hui gèrent leur trajectoire de l'enfance à la vieillesse. Bon. Quels sont les différents modèles, quelles sont les différentes normes, mais il faut faire de la comparaison internationale pour que ce soit intéressant. Or, il y a des chercheurs de très très haut niveau, de très très grand niveau, au moins dans 4 pays, qui vont essayer de rassembler et de voir. Tout ça dans le cadre de cette revue que je dirige, vous pouvez éventuellement en prendre une si vous voulez. Il y a 5 numéros. On en est au numéro 6, oui, c'est ça. Et il va y avoir un numéro qui va s'appeler Parcours professionnel et parcours de vie, où je voudrais bien faire intervenir mes collègues de Genève, mes collègues de Bielefeld, mes collègues de Montréal, et peut-être d'autres, pour essayer de faire un peu la synthèse sur ce qui s'est fait chez eux autour de ce que la Lise d'Épinay appelle le paradigme du parcours de vie.
D'accord, très bien. Bien, je vous remercie pour cet entretien, vous avez consacré du temps.